Bastia.
Sud Radio, les clés d'une vie, 13h, 14h, Jacques Plessis.
Sud Radio, les clés d'une vie, ce sont celles de mon invité que vous allez découvrir dans quelques instants. Vous êtes devenu un maître sans pour autant délaisser ceux qui ont été vos professeurs. Passion oblige, vous n'êtes pas prêt à échanger votre place contre un empire, surtout s'il est américain. Vous venez de réaliser un film pour votre plaisir, mais aussi pour celui des spectateurs. Un double plaisir auquel s'ajoute celui de vous recevoir aujourd'hui dans les clés d'une vie. Bonjour Denis Arcand.
Bonjour.
Alors c'est vrai que vous venez du loin, du Québec.
Oui. Hein,
mais pour la sortie d'un film dont on parlera tout à l'heure, qui sort aujourd'hui, et un film qui est la suite d'une trilogie, on en parlera, on laissera la surprise à nos auditrices, à nos auditeurs. Mais le principe de l'émission, c'est de vous raconter, de raconter votre carrière à travers des dates clés. Et la première que j'ai trouvée, Denis Arcand, c'est le 13 octobre 1970. C'est la sortie d'un court-métrage qui a mis quelque temps à sortir. Ça s'appelait, je crois, « On est au coton ».
D'abord, ce n'était pas un court-métrage, c'était un extrêmement long-métrage qui durait 3 heures.
Oui.
Qui était sur les ouvriers du textile.
C'est ça, qui avait des conditions de travail très difficiles.
Très dur. C'est très, très dur de travailler dans le textile. Et le textile, c'est une industrie de la misère. C'est-à-dire qu'elle suit la misère dans le monde.
Et ce film, vous l'avez fait, et ça a été l'un des rares films censurés au Québec, Denis Arcand.
Oui, il avait été censuré par le gouvernement fédéral, pour lequel je travaillais d'ailleurs. Donc, il n'a pas été censuré, ils ont décidé de ne pas le sortir.
Il a été non recommandé, quoi.
Il a été mis sur une tablette et personne n'avait le droit de le voir, mais il y avait eu une erreur qui avait été commise, c'est qu'à cette époque-là, la vidéo venait d'être inventée. Donc, quand on a appris que le film allait être censuré dans le sens où il n'allait pas sortir, on a fait des copies vidéo dans une nuit et qu'on a après distribué sous le manteau et c'est devenu une cause célèbre au Canada et ça m'a rendu moi-même très connu du jour au lendemain alors que j'étais un obscur cinéaste militant et donc c'est le meilleur service qu'on pouvait me faire, c'était d'interdire le film.
Alors pourquoi on l'avait interdit?
On l'avait interdit parce que les compagnies de textile, les grandes compagnies, qui fabriquaient du textile encore à l'époque. Il n'y en a plus maintenant, c'est disparu. Elles ont toutes déménagé dans le sud-est asiatique. Mais à cette époque-là, elles étaient encore importantes au Canada. Elles ont fait des représentations auprès du gouvernement, disant « ça donne une très mauvaise image de notre industrie, on aimerait mieux que ça ne se voit pas », et le gouvernement s'était rendu à leur raison.
Alors, tout a commencé, Denis Arcand, à Deschambault, un village près du Québec où vous avez grandi.
Oui, j'ai grandi dans un tout petit village sur les bords du Saint-Laurent, un très, très, très beau village d'ailleurs. Et mon père était marin, il était pilote sur le Saint-Laurent et il avait été d'abord marin au long cours au départ.
Et pourquoi, qu'est-ce que c'est pilote sur le Saint-Laurent?
Eh bien, le Saint-Laurent est un très long fleuve, très large, et il faut les navires étrangers, donc aussi bien français que norvégien ou toute autre nationalité, ils ont besoin d'un pilote pour diriger le bateau à travers le chenal qui est compliqué à naviguer.
Et d'ailleurs, le père de votre mère lui-même travaillait comme pilote maritime.
Toute ma famille, c'était tous des marins. Alors, soit des pilotes, c'était des capitaines au long cours, c'était des gens qui avaient navigué à travers le monde. Je suis la première génération à avoir trahi l'héritage familial. Ils étaient pilotes depuis le 18e siècle.
Pour celles et ceux qui ne savent pas où est Deschambault, c'est un village près du Québec. Et juste à côté, il y a Girondine, avec un fromage très célèbre au Québec, je crois.
Oui, Grondine, je vous corrige.
Ah, c'est
pas
Grondine.
Girondine, Grondine.
Grondine, oui, vous avez raison.
Oui, il y a des très bons fromages maintenant au Québec. Presque aussi bon qu'en France.
Il y a aussi la poutine, mais qui est une spécialité.
Ah non, ça, je déteste. Ça,
Alors, curieusement, votre père et votre mère ont fait un voyage de noces très particulier qui s'est arrêté la veille de la Seconde Guerre mondiale. Mais ils ont été quand même, ils sont venus à Paris, à Milan. Ça a été important pour eux.
Ça a été très important dans leur vie. Comme mon père connaissait bien le monde entier, puisqu'il avait navigué au long cours autour du globe, quand il a épousé une jeune fille qui sortait du couvent dans mon village natal. Il a voulu lui payer un très beau voyage et donc ils sont venus pendant 4 mois. À l'époque, les pilotes ne travaillaient pas pendant l'hiver parce que le fleuve gelait. Aujourd'hui, il y a des brise-glaces super puissants qui cassent les glaces. À cette époque-là, le fleuve gelait et donc les pilotes étaient inoccupés de décembre à avril. Alors, ils en ont profité pour venir ici. Ils voulaient absolument venir en France. Ils sont allés en Italie, en Suisse, etc. Et ils avaient été très frappés par le fait qu'ils étaient allés un soir à Biarritz et ils avaient entendu les canons de Franco tonner sur la côte basque. Et ça, ça les avait terriblement impressionnés, puisque la guerre, c'est un phénomène qu'on ne connaît pas au Canada. Il n'y a jamais eu de guerre au Canada. Et donc, ça, ils en ont parlé toute leur vie. On entendait le canon tonner. C'était terrible. Parce qu'ils auraient aimé aller en Espagne, mais c'était pendant la guerre civile. Donc,
c'était pas possible.
C'était pas possible.
Et vous, vous avez été frappé, mais à la porte de la salle de bain familiale, en écoutant cette voix. En prenant sa douche, Raoul Jobin, l'un des plus grands ténors mondiaux, était chez vous.
Oui, par un hasard absolument extraordinaire. Mon père avait été à l'école avec ce type qui s'appelait Raoul Jobin et qui lui disait « Moi, je veux chanter ». Et là, après, mon père est parti sur les navires naviguer. Pendant ce temps-là, lui, il a continué sa carrière. Et il est devenu premier ténor de l'Opéra de Paris. Donc, quand mon père a proposé ce voyage de noces à sa future femme, il a dit la première chose qu'on fera, c'est d'aller à l'Opéra de Paris entendre mon copain Raoul. Et donc, voilà, ils sont venus ici, ils sont venus à plusieurs représentations à l'Opéra. Et après, ils sont toujours restés plus ou moins amis, si bien que quand Raoul Jobin, qui a chanté après, pendant la guerre, il était au Metropolitan Opera, donc parce qu'ici, à Paris, il avait voulu fuir, évidemment, l'occupation. Donc, il chantait à New York à ce moment-là. Et quand il venait en vacances au Québec, il venait chez nous. Et donc, quelquefois, en prenant sa douche, j'entendais cette voix-là, qui me faisait très impressionné, évidemment.
Et vous écoutiez aussi des opéras, parce qu'à la radio, il y avait justement, le samedi après-midi, des opéras, et ça a formé votre oreille, Denis Arcan.
Mon père avait cette habitude d'écouter son ami Raoul et de l'opéra en général. Et il y a une émission de radio extrêmement célèbre en Amérique du Nord qui s'appelle le Metropolitan Opera, qui existe encore de nos jours. Ça fait presque, je sais pas, ça doit faire presque un siècle qu'il y a cette diffusion-là tous les samedis après-midi à 2h. C'est le Metropolitan Opera de New York. Et donc, c'était sacré chez nous. Il ne fallait pas parler, il ne fallait pas jouer, il fallait rester en silence. Ou en tout cas, si on jouait, jouer en silence, parce que mon père écoutait les rediffusions du Metropolitan Opera.
Et vous, ensuite, vous avez fait, je crois, à l'Université de Montréal, des études d'histoire et de littérature. Ça vous a donné vraiment le goût de l'histoire.
C'était un peu par défaut. Parce que quand j'ai terminé, si vous voulez, mon lycée, ce qui m'intéressait, c'était écrire, c'était le théâtre, c'était le cinéma, à la limite la radio, les journaux. Enfin, je ne savais pas exactement vers quoi je voulais aller, mais je voulais aller dans le champ artistique. Sauf que mon père avait fait des sacrifices considérables pour m'envoyer au collège, m'envoyer à l'université, la même chose pour mes frères et ma sœur. Et donc, j'avais l'impression de le décevoir terriblement si j'avais annoncé que je serais écrivain ou quelque chose comme ça. Donc, je me suis dit, qu'est-ce qui serait un compromis pour ne pas trop le décevoir? Je me suis dit, bon, si je faisais des études d'histoire, l'histoire m'intéressait, mais pas de façon passionnée, si vous voulez. Je me suis dit, bon, je vais faire ça. Puis en plus, si tout le reste est un échec, ben je deviendrai prof d'histoire, ce qui n'est pas si mal.
Et vous êtes devenu prof et ça s'est mal passé, je crois, au cours...
Ça, c'est autre chose. C'est quand que... Non, je suis d'abord devenu cinéaste, mais après, dans les aléas du métier de cinéaste, il y a des moments qui sont plus durs que d'autres. Et donc, j'ai accepté des postes d'enseignement, mais pas en histoire, en cinéma, deux fois. Quand j'étais complètement paumé et j'avais pas un rond, j'ai accepté ça d'un emploi de chargé de cours. Et j'ai eu horreur de ça, j'ai horreur de l'enseignement. Je suis pas fait pour ça, alors que c'est très utile, puis c'est pas, ce que je dis n'est pas un jugement péjoratif sur l'enseignement, qui est quelque chose d'absolument essentiel et sacré dans une société, mais moi, je n'étais pas doué pour ça, et j'ai toujours eu peur de ça, j'ai toujours eu peur d'être obligé de retourner à enseigner.
Et surtout qu'un jour, vous avez demandé à vos élèves d'écrire un scénario à partir d'un roman, ils ont dit « on n'est pas venu pour écrire, mais pour lire ».
Oui, c'est parce que le premier jour où je suis arrivé, supposément pour enseigner la scénarisation, j'ai dit à mes élèves, écoutez, on va faire un premier exercice, vous prenez un grand roman et vous en scénarisez un chapitre. Alors, vous pouvez prendre Madame Bovary, Le Rouge et le Noir, La Chartreuse de Parme, je sais pas, Les Misérables, ce que vous voulez. Et tout le monde me regardait d'un air complètement ahuri. Et là, je me suis rendu compte qu'ils n'avaient jamais rien lu. Et là, j'ai dit, mais vous pouvez prendre des romans modernes, si vous voulez, prenez Pour qui sonne le glas, Sanctuaire, Le Grand Gatsby. Et là non plus, et je me suis rendu compte qu'ils n'avaient jamais rien lu, sauf des bandes dessinées. Et donc, j'ai dit, ben là, je suis désolé, mais pour écrire, il faut d'abord avoir lu.
Et ben voilà.
Alors, vous allez commencer par lire, et il n'y aura pas de cours la semaine prochaine. Et on se revoit dans deux semaines, et vous me dites le roman que vous avez choisi. Et là, ils n'ont rien dit, et je suis sorti de la salle. Après, ils sont allés voir le doyen immédiatement en disant, voilà, nous, on paie pour écrire, on ne paie pas pour lire, ce type est insupportable, etc. Alors, c'était le début de ma carrière de professeur. Vous voyez que ça n'allait pas s'améliorer.
Mais il y a d'autres choses qui sont améliorées. On en parle dans quelques instants avec une autre date, le 8 mars 1984. À tout de suite sur Sud Radio avec Denis Arcand.
Sud Radio, les clés d'une vie, 13h, 14h, Jacques Pessis.
Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Denis Arcand. Aujourd'hui même sort un film, La chute de l'Empire américain. On va en parler longuement tout à l'heure, mais le principe, c'est encore une fois de vous raconter à travers des dates clés. Alors, le 8 mars 1984, je ne suis pas sûr que ça vous dise quelque chose, c'est une émission qui s'appelle Cinéma sans visa sur France 3, avec Jean-Claude Guibaud qui vous reçoit avec Philippe Meyer et un journaliste québécois, Jean-François Lisée, pour un débat sur le thème Le Québec, politique et cinéma. Vous en souvenez ?
Oui, je m'en souviens.
C'est votre première télé en France.
Ah oui, ça, je me souviens pas que c'est la première, mais oui, je me souviens de ça très bien. Ouais.
Et c'était après la diffusion d'un film qui s'appelait Réjeanne Padovani.
Oui.
Et film qui avait été présenté à Cannes, je crois que ça a été un drame.
Bon, ça n'a pas été un drame du tout. Pourquoi un drame ?
Parce que c'est un mauvais souvenir pour vous.
Non, pas du tout.
J'ai lu des articles de journaux où on dit « Ouais, mais le film n'a pas été accueilli comme il le méritait. »
Ah, mais pas du tout, au contraire. Ah, non, non, le film a été extrêmement bien accueilli. Et en plus, j'avais eu droit à une page entière dans Le Nouvel Observateur. J'ai oublié le critique « Malheur à moi, ma mémoire fait défaut » et j'avais eu une page complète dans l'Express de Claude Mauriac.
Oui.
Et donc, ça avait été extrêmement bien reçu et non, pas du tout. La seule chose qui est arrivée, c'est que j'étais arrivé en retard à la projection.
Oui.
J'ai raté la projection. Parce que j'étais
voilà
en train
un mauvais souvenir, il existe.
Oui, mais c'est pas un mauvais souvenir, c'est parce que j'étais en train de dîner avec une jeune femme absolument charmante que je venais de rencontrer, et j'ai complètement oublié la projection. Je suis arrivé en courant, et le directeur de la quinzaine des réalisateurs, qui était Pierre-Henri Deloux, était un peu fâché avec moi, parce que je suis arrivé, les gens étaient partis.
Ah oui, ça, c'est pas terrible.
Mais c'était, par ailleurs, c'était un bon souvenir.
Oui, il y a eu d'autres bons souvenirs au Festival de Cannes. Cette année-là, il y a eu La Grande Bouffe qui a fait scandale.
Ouais.
Il y a eu La Maman et la Putain de Jean Eustache qui ont fait scandale.
Ouais.
Ils ont regretté que La Nuit américaine écrit et chuchotement qui était présentée hors festival n'ait pas été sélectionnée pour la compétition. Sinon, ils auraient gagné.
Je me souviens, je suis allé manger avec les comédiens et l'équipe de La Nuit américaine à Mougins, à l'extérieur, derrière une église.
Oui.
Et j'étais absolument fasciné par l'actrice principale, Jacqueline Bisset, qui était la plus belle personne que j'avais jamais vue de ma vie. Alors j'ai passé le déjeuner, la bouche ouverte, avec un air complètement idiot, à la regarder.
Alors ce film, Réjeanne Padovani, c'est un film encore qui a fait scandale, parce que c'était le thème de la corruption au Québec, entre mafia et politiciens. Aujourd'hui, on en parle, à l'époque on n'en parlait pas, Denis Arcand.
On en parlait moins, effectivement, mais c'était la réalité, donc... Je voulais rendre compte de mon époque, comme j'ai toujours voulu faire.
Voilà, alors ça n'a pas plu à tout le monde.
Non, pas du tout, mais en même temps, le film, chez les cinéphiles, en tout cas, ça n'a pas été un grand succès populaire. À cette époque-là, j'étais un jeune cinéaste qui faisait des films pointus, et donc il a eu son public chez les cinéphiles. Mais moi, j'étais très content de tout ça et du résultat et tout.
Et puis, il y a une autre date importante pour vous et pour le Québec, c'est le 24 juillet 1967.
Vive le Québec libre !
Ce « Vive le Québec libre » où De Gaulle, alors qu'il était venu au Québec l'année précédente en costume de ville, est en costume de général de brigade pour cette phrase qui vraiment va déclencher des tas de polémiques.
Oui, de chez les fédéralistes surtout, ils étaient outrés. Mais c'est bizarre parce qu'à cette époque-là, je passais l'été donc dans mon village natal de Deschambault. Et c'est la première fois que je me suis rendu compte que certaines personnes dans le monde sont des personnages hors du commun et ont une espèce d'attrait, je dirais, magnétique. Puisque la famille de ma femme, à ce moment-là, qui habitait l'autre rive du Saint-Laurent, m'ont téléphoné pour me dire « Nous allons traverser le fleuve parce que nous voulons voir le général de Gaulle qui va passer devant chez vous » demain matin à 8h30, puisque le général de Gaulle était en voiture, une voiture découverte, et il circulait entre Québec et Montréal et il saluait la foule. Et ces gens-là étaient des gens qui n'étaient pas du tout des francophiles, qui étaient absolument opposés à l'indépendance du Québec, mais Il voulait voir le général de Gaulle. Pourquoi? Je ne sais pas. C'était, et traverser le fleuve à ce moment-là, le fleuve à 2 kilomètres de large, il y a des remous, c'est très compliqué. Et donc, ils avaient pris des sortes de petits yachts, là, et ils avaient traversé le fleuve, ils étaient abordés, ils étaient montés chez moi, ils étaient sur le pas de la porte, et ils regardaient absolument fascinés le général de Gaulle. Et j'ai vu ça une autre fois, en tournant cette fois-là, avec la reine d'Angleterre. La reine, the queen. Et il y a quelque chose qui se passe. Moi, il n'y a personne qui me ferait traverser une rue pour aller le voir ou la voir. Rien, personne au monde. À la limite, peut-être Raphaël Nadal. Mais ce
c'est votre côté enfant de la balle, ça.
Oui, c'est ça. Mais sinon, jamais. Alors que là, tout d'un coup, en regardant autour de soi, on voit ça. Espèce de ferveur quasi religieuse qui est au-delà des idéologies, au-delà de tout, entre certaines personnes magiques et la foule.
Alors, le cinéma, pour vous, ça a commencé par hasard, c'était votre passion, Denis Arcand, par un stage d'été qui s'est transformé en 10 ans de documentaire.
Oui, c'est ça, exactement. Je cherchais un emploi d'été et je suis allé frapper à la porte de l'Office national du film du Canada, qui était à ce moment-là une sorte d'organisme gouvernemental, un peu comme l'ORTF était ici, et qui avait mission de faire des films documentaires pour renseigner le public canadien. J'y suis allé sans grand espoir d'être engagé, parce que tout le monde qui voulait faire du cinéma allait frapper à la porte, ils ne pouvaient pas engager tout le monde. Sauf que j'avais une licence d'histoire que je venais d'avoir la semaine précédente, et je suis arrivé devant un producteur qui a dit « Ah, mais c'est parce que nous avons une commande de faire des films sur l'histoire du Canada par le gouvernement fédéral, c'est une commande officielle, est-ce que vous voudriez travailler là-dessus ?» Et j'ai commencé à travailler là-dessus, ça ne s'est jamais arrêté.
Et petit à petit, vous avez progressé, vous êtes même allé à Hollywood, mais dans des conditions très particulières, Denis Arcand.
Bon, voilà, c'est que... À un moment donné, Paramount a décidé d'exercer une option pour voir s'ils n'avaient pas à faire un remake de Déclin de l'Empire américain. Alors, si vous connaissez les grands studios d'Hollywood, pour eux, l'important, c'est que les gens de talent, ce qu'ils appellent de talent, le réalisateur, le scénariste, tout ça, soient heureux, soient confortables. Non pas par respect de l'art, mais parce que si les gens qui ont du talent sont confortables, avec eux, on va pouvoir faire de l'argent. Et donc, ils ont une attitude absolument qui, moi, m'étonnait absolument. La secrétaire du vice-président de Paramount a téléphoné à la secrétaire de mon producteur à Montréal, demandant « Quel genre d'homme est-ce ?» Et là, elle, qui m'avait vu 3 fois dans sa vie, a dit « Écoutez, je sais pas, c'est un homme très sérieux, vous savez, il a un diplôme universitaire. » Déclic. Paramount me loge dans un hôtel voisin de UCLA, l'Université de la Californie du Sud. Et là, ils me disent, mais êtes-vous content? Êtes-vous au bon endroit? Vous savez, il y a des librairies tout près, et il y a aussi des cours, si vous voulez assister aux cours. Et là, moi qui est, comme tout le monde, qui aurait pu vouloir rêver de Starlet, etc., j'étais logé avec des astrophysiciens barbus et des professeurs d'informatique et des choses comme ça. Et tout le temps où j'étais là pendant 3 mois, j'étais logé dans ça. Par ailleurs, c'est formidable, c'est complètement dans l'ouest de Los Angeles, ce qui n'est pas pratique du tout, parce que je devais traverser toute la ville pour aller travailler à Paramount, mais c'était un hôtel très confortable, très bien, à côté de l'université.
Et votre premier film, on l'a oublié, il s'est tourné justement quand vous étiez à l'université, en amateur, avec des copains.
Ouais, c'est ça. En fait, oui, c'est ça, c'est trois types, deux types de qui étaient étudiants, qui voulaient faire un film, ils ont dit on va faire un film avec des étudiants, etc. Et moi, je travaillais, j'étais très actif à l'atelier de théâtre, où on faisait beaucoup d'improvisation. Et à ce moment-là, l'improvisation était à la mode au cinéma. Jean Rouge venait de faire Chronique d'un été, des choses comme ça, cinéma direct et tout ça. Donc, ils sont venus me chercher, pas pour mes compétences cinématographiques, mais parce qu'ils croyaient que je serais bon pour travailler avec des acteurs, leur fournir une espèce de cadre où ils pourraient improviser facilement. Alors, c'était mon premier contact vrai avec le cinéma. Puis, il y avait des professionnels qui avaient été prêtés justement par l'Office national du film, et c'était mon premier contact avec le milieu du cinéma.
Et il y en a eu beaucoup d'autres. On en parle dans quelques instants avec une autre date importante pour vous, le 4 février 1987. À tout de suite sur Sud Radio avec Denis Arcand.
Sud Radio.
This night is cold in the kingdom. I can feel you fade away. kitchen to the bathroom sinking. Your steps keep me awake. Don't cut me down, throw me out, leave me here to waste. I once was a man with dignity and grace. Now I'm slipping through the cracks of your cold embrace. Oh please, please, could you find a way to let me down slowly? A little sympathy I hope you can show me. If you wanna go then I'll be so lonely. If you're leaving, baby, let me down slowly. Let me down, down, let me down, down. Let me down, let me down, down. Let me down, down, let me down. If you wanna go, then I'll be so lonely. If you're leaving, baby, let me down slowly. Cold skin, drag my feet on the tile as I'm walking down the corridor. And I know we haven't talked in a while, so I'm looking for an open door. Slipping through the cracks of your cold embrace. Oh please, please, could you find a way to let me down slowly? A little sympathy I hope you can show me. If you wanna go then I'll be so lonely. If you're leaving, baby, let me down slowly. Let me down, down, let me down, down. Let me down, let me down, down. Let me down, down, let me down. If you wanna go then I'll be so lonely. If you're leaving, baby, let me down slowly.
Sud Radio, les clés d'une vie, 13h, 14h, Jacques Pessis.
Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Denis Arcand, avec des souvenirs liés à une date. Alors aujourd'hui sort un film qui s'appelle La chute de l'Empire américain. Et le 4 février 1987 est sorti un film qui s'appelait
Le déclin de l'Empire américain.
Exactement, et ça a été votre premier grand succès.
Oui, absolument, je me souviens. La première a eu lieu sur les Champs-Élysées, ici à Paris, et puis. Ça a très bien marché, c'est un film qui a bien fonctionné.
Alors c'était quatre hommes, quatre profs qui étaient à la cuisine, tandis que leur femme faisait de la gymnastique, et c'était vraiment un dialogue sur le sexe et toute la vie des hommes, toute la vie secrète des hommes, Denis Arcand.
La vie secrète des hommes et des femmes.
Oui.
La vie secrète de tout le monde.
Donc c'était un sujet politiquement incorrect à l'époque.
Je ne sais pas, je ne suis même pas posé la question, c'était l'histoire de ma vie. J'avais 41, 42 ans quand j'ai écrit ça. Je venais de me séparer de ma première femme. J'étais un peu perdu dans la vie et j'avais envie d'écrire sur ma vie amoureuse et sexuelle et celle des gens qui vivaient autour de moi. Et je pensais pas... Ça devait être un tout petit film, un peu expérimental, avec un tout petit budget. Et ça s'est avéré, surtout à cette époque-là, le plus populaire de mes films. C'était un film qui a très bien marché partout dans le monde.
27 pays, je crois, l'ont acheté.
Ah oui, ça a été vendu partout.
Alors, c'était quand même révolutionnaire pour l'époque, parce que l'ivresse d'aimer sans tabou, on n'en parlait pas beaucoup.
Non, c'est ça. On ne parlait pas de ça, mais pourtant, c'est ce qu'on vivait. Donc, en fait, comme je vous dis, c'était l'histoire de ma vie, tout simplement.
Je crois que le premier titre, c'était « Conversation scabreuse ».
Oui, c'est ça, parce qu'à l'origine, le producteur m'avait dit « Écoute, j'aimerais ça produire un film avec toi, mais j'ai vraiment pas un sou. Il faudrait que ce soit le film le plus économique auquel tu peux penser. » Et donc, je venais de voir un film de Louis Malle qui s'appelait « My Dinner with André », qui était un film américain de Louis Malle qui consiste uniquement en une conversation entre un dramaturge et un comédien dans un restaurant new-yorkais. Et ça, je me suis dit, ça, c'est le film le plus économique qu'on puisse penser tourner en une soirée dans un restaurant. Donc, je me suis dit, je vais faire la même chose, je vais faire des conversations. Quelles sont les conversations dans un restaurant qu'on veut absolument entendre? si quelqu'un parle autour de soi et qu'on entend une conversation, je me suis dit, c'est sur le sexe. Si quelqu'un parle d'une confidence sexuelle, on s'arrête et on essaie d'écouter. Et donc, à l'origine, c'était juste ça. C'était des gens dans un restaurant, ils parlaient de ça. Et puis là, le producteur est devenu très enthousiaste par rapport à ça. Puis il a dit, écoute, on va essayer de trouver un coproducteur pour trouver un peu plus d'argent, pour élargir un peu le sujet, c'est-à-dire, pas le sujet, mais les moyens de production, que ça puisse se passer dans deux ou trois endroits, etc. Et, tout ça. Et c'est comme ça que finalement, le film donc, a changé de titre et c'est devenu un peu plus vaste. Puis là, j'ai appelé ça « Déclin de l'Empire américain ». Tout le monde était absolument opposé à ça. Qu'est-ce que c'est? Les gens vont penser que c'est sur la guerre du Vietnam, que c'est sur un crash à Wall Street ou des choses comme ça. Et puis je me suis un peu entêté en disant non, je suis sûr que c'est ça que je veux dire. Et puis finalement, après, tout le monde a dit, ah ben oui, évidemment, c'était prévisible, bien sûr. Voilà, le succès s'explique toujours et tout ça.
Et comment est née cette idée du titre « Le déclin de l'Empire américain » de Denis Sarcand?
Ben, parce que j'avais été étudiant en histoire, et en histoire, surtout dans le monde anglophone, il y a un livre absolument culte que tout le monde doit lire qui s'appelle « Le déclin et la chute de l'Empire romain » de Gibbons. Ça, c'est un classique de l'historiographie britannique. Et donc, parce que c'était ça, je me suis dit, appelons ça le déclin, puis le dernier, celui qui va sortir, c'est le dernier chapitre.
Voilà. Et d'ailleurs, il y a un autre livre qui est évoqué dans ce film, on voit « Notre passé, le présent et nous ».
Ouais.
Qu'est-ce que c'est, ça?
Ah, ça, c'est pas un très bon livre. C'est juste un livre d'un de mes profs d'histoire.
Voilà.
C'est juste que j'avais été frappé par... J'avais eu un très, très bon rapport, moi, avec mes profs d'histoire. Je m'entendais bien avec eux, je les trouvais formidables. Et eux aussi, on avait un rapport affectueux et merveilleux. Et juste avant que je tourne le film, un de ces professeurs-là, qui s'appelait Michel Brunet, m'avait communiqué, il m'avait dit « il faudrait qu'on se revoie, j'aimerais ça qu'on aille déjeuner ensemble » et tout ça. Puis là, je lui ai dit « écoutez, je suis très occupé, je suis en préparation de tournage, je vais tourner dans deux semaines, je vous rappelle après le film. » Et il est mort. Il est mort pendant mon tournage. Et donc, j'ai voulu lui rendre hommage et j'ai pris un exemplaire de son film, de son livre, et puis la comédienne le tient dans ses mains, l'offre à son copain.
Et alors, justement, lorsque vous écrivez un film, vous appelez quelquefois les professeurs, vous vous renseignez pour qu'il y ait toujours ce côté universitaire dans le film.
Ouais, c'est-à-dire que je pense qu'on est toujours... on est toujours influencé par son éducation. Puis par ce qu'on fait dans la vie. Un médecin, quand il vous regarde, il se demande si vous êtes en bonne santé. Il observe vos signes vitaux, vos yeux, votre teint, etc. Un avocat se demande s'il n'y a pas lieu d'un litige. Si vous êtes passé à un policier, vous soupçonne déjà quand il vous regarde, parce que c'est leur métier. Et bon, ben moi, ayant fait des études d'histoire, c'est un peu la même chose. C'est devant n'importe quelle situation, je me dis toujours, mais d'où venons-nous? Qu'est-ce qui a précédé cette situation-ci? Quelles sont les origines de ceci, etc.? C'est un peu une déformation professionnelle. Et donc, c'est un milieu que je connais bien. Mon frère est des professeurs d'université. Beaucoup, beaucoup de mes amis. J'ai plus d'amis professeurs d'université que cinéastes, si vous voulez. Et donc, c'est un milieu dans lequel je suis à l'aise et avec lequel j'ai eu des contacts réguliers tout le temps.
Alors, les critiques saluent le film à l'époque. Ils saluent l'audace du film, qui a tout misé sur le dialogue. Ils parlent du pessimisme requinquant de ces anti-américains. Et vous vous retrouvez au Festival de Cannes.
Oui, c'est ça. Le film a très bien marché aussi. Parfait.
Là aussi, on vous a appelé, on vous a dit, vous êtes sélectionné pour Cannes. Ça s'est passé
comment? Non, c'est le contraire. Gilles Jacob, qui était le directeur du festival à ce moment-là, était très, très, très inquiet. Il avait très peur que la réaction ne soit pas bonne dans le public. Et bien, il trouvait ça très audacieux et tout ça. Et finalement, il ne l'a pas pris. Et Pierre-Henri Deloux, qui dirigeait la semaine de la quinzaine des réalisateurs, l'a pris en disant, mais... Jacob est un idiot de ne pas avoir pris ça. Moi, je vais faire l'ouverture et ça, on va casser la baraque. Et c'est ce qui s'est passé, effectivement. Et Gilles Jacob, je dois dire, a communiqué avec moi tout de suite après en disant, bon, c'était une erreur, je prends le prochain, quel qu'il soit. Et ouais. Il a tenu parole.
Et il a tenu parole.
Voilà, après ça, on a eu une longue amitié.
Et il y a un film qui a fait scandale cette année-là, c'est La Palme d'Or. « Sous le soleil de Satan » de Maurice Pialat, où il a fait un bras d'honneur au public, ce qui n'est pas terrible. Et il y avait Lady Di qui était passée, je ne sais pas si vous l'avez croisée, elle est venue avec le prince Charles visiter le marché du film. Elle a dit « Quand on voit tant de caméras de télé, on se dit que le petit écran finira par tuer le cinéma. »
Elle avait dit ça?
Oui.
Mais c'était extraordinaire, c'était une prophétesse.
Non, le cinéma a encore de beaux jours devant lui.
Oui, oui, bien sûr.
Alors, ce film donc, a été un gros succès, mais ça évoquait aussi la fin d'un monde, ça évoquait courir après le bonheur. C'était important pour vous, Denis Sarcand?
Je sais pas. Comme je vous dis, c'était l'histoire de ma vie, donc j'avais pas de recul par rapport à ça. Maintenant qu'on le voit 40 ans plus tard, on se dit « Ah, voilà, c'est peut-être des signes avant-coureurs, c'était évident, etc. » Pour moi, à l'époque, j'étais pris dans le maelstrom de ma propre vie et j'avais pas de recul suffisant pour pouvoir juger ça. Mais maintenant, oui. Mais je dois vous dire une chose, c'est que l'année dernière, au Québec, une troupe de théâtre de très jeunes comédiens et comédiennes ont décidé de reprendre le texte et de le jouer avec beaucoup, beaucoup de succès. Et ça m'a procuré une joie incroyable de m'asseoir dans une salle et de voir des gens qui ne sont pas du tout de ma génération jouer ce texte-là avec conviction et de voir un public très jeune écouter ça comme si c'était entièrement nouveau, parce que beaucoup d'entre eux n'avaient pas vu le film ou l'ont vu, c'était les cinéphiles qui l'ont vu, parce que ça fait tellement longtemps que c'était neuf pour eux et ça leur paraissait encore d'actualité, ce qui est c'est ce qu'on peut espérer de mieux quand on fait des films.
Alors, vous avez tourné ce film avec peu de moyens et quelqu'un vous a prêté une maison et ce quelqu'un, on va écouter une chanson qu'il a écrite. Car vous avez tourné chez Luc Plamondon, l'auteur de Starmania, avec Michel Berger, Denis Sarkand.
Pas tout à fait, en face de chez lui.
Oui.
Lui, c'est sur le même lac, et sa maison est d'un côté, et on a tourné en face. Mais en tout cas, c'est quelqu'un dont je suis proche, et donc, oui.
Alors, on parlait justement de la réaction de Gilles Jacob après le déclin de l'Empire américain. Il y a eu plusieurs films, il y a eu Jésus de Montréal, et il y a surtout eu Les Invasions barbares, c'est qui vrai. Est la suite, et qui a été un immense succès, qui vous a même procuré un Oscar.
Oui, monsieur, j'ai un Oscar. Donc, ça veut dire que la première ligne de mon éloge funèbre est déjà écrite, c'est ce qu'on dit toujours. Oscar winner so-and-so est mort hier à tel endroit.
Comment c'est venu cet Oscar? Ça vous a surpris?
Non, ça ne m'a pas surpris parce que depuis longtemps, j'étais le favori. C'était la troisième fois où j'étais candidat au Oscar. J'étais au Oscar pour Déclin de l'Empire américain, j'y étais pour Jésus de Montréal, et là, j'y étais aussi pour Invasion barbare. Donc, j'étais un vieil habitué, si vous voulez, des Oscars.
Oui.
Mais cette fois-là, tout le monde disait, parce que bon, ça avait été un succès à Cannes et ça a gagné tous les prix possibles et imaginables dans le monde entier. Et donc, même, ils ont fait une petite exposition à Québec où ils ont exposé juste les prix. Et il y avait, c'est une grande table, ça avait 30 mètres de long. Il y avait des prix de tous les pays du monde. C'était le film étranger le plus, je sais pas quoi, qui était toujours... je m'y attendais un peu. C'est quand même une surprise, j'étais pas sûr de gagner, mais c'était dans l'air du temps.
Et puis, Denis Arcand, il y a eu les Césars, où je crois que vous avez eu trois Césars, dont un que vous a remis Sandrine Bonnaire.
Absolument, bien sûr, ben oui. Oui, j'ai eu trois Césars, voilà. Le meilleur film, meilleur scénario, meilleure réalisation. Et pas mal, quand même,
c'est
pour
pas mal,
un étranger.
Oui. Et il y a quelques années, il y a l'adaptation théâtrale de Déclin de l'Empire américain qui s'est faite à Paris au Théâtre Daunou.
Oui, absolument. Il y a eu plusieurs adaptations du Déclin de l'Empire américain. Il y en a eu ici, il y en a eu au Québec, comme je vous ai dit. Il y en a eu à New York, il y en a eu au Brésil. Il y en a eu à beaucoup d'endroits.
Et le théâtre, c'est aussi une autre de vos activités qui a commencé à l'université où, je crois, vous avez joué 12 hommes en colère, Denis Parent.
Oh mon Dieu, vous savez tout sur moi, c'est absolument incroyable. Oui, je jouais probablement très mal le rôle de Henri Fonda dans 12 hommes en colère. Oui. J'avais joué ça à l'université parce que je m'intéressais beaucoup au théâtre. Je faisais partie de l'atelier de théâtre de l'université et on montait des pièces et tout ça. Donc, ça faisait partie de mes intérêts à l'époque.
Et le film a un point commun avec vous. Il a été fait avec très peu de moyens à part Sidney Lumet. C'est-à-dire qu'il y a eu 21 jours de tournage et le film a coûté $340,000.
Oui, c'est ça. Mais par contre, Sidney Lumet, lui, il répétait beaucoup. Ah, c'était un maniaque des répétitions. Donc, il s'était répété comme une pièce de théâtre. Donc, c'est pour ça qu'il pouvait tourner très rapidement à cause de ça.
Et vous avez fait une pièce qu'on connaît peu en France, La Petite Variation sur un thème de Claire Bretéché.
Oui, c'est ça. Ben, c'est parce que c'est là où j'ai rencontré, en fait, pour la première fois, Rémi Girard et Yves Jacques, que je connaissais pas et je me suis pas du tout occupé de la mise en scène de ça. J'avais écrit ça pour un théâtre à Québec et c'est eux qui étaient des comédiens de Québec et qui ont joué dans ça. Et quand je les ai vus sur scène, je me suis dit, bon, ben, ces deux types-là, ils vont jouer dans tous mes films tout le temps, parce qu'ils jouaient avec un naturel incroyable et et en comprenant mes intentions à la virgule près.
Et Claire Bretéché étant connue en France, elle était au courant de cette pièce?
Ça, je ne sais pas, je pense pas, parce que c'était juste une référence de titre. Non, je ne l'ai jamais rencontrée. Et ce n'était pas rien qu'elle avait écrit, mais c'était dans son esprit. J'adorais ce qu'elle faisait. Puis, ouais,
elle continue à faire. Elle vit dans une maison, alors au-dessus d'un garage à Montmartre. Vous prenez l'escalier du garage qui est pourri et vous arrivez dans une maison somptueuse qui est sur un toit où elle garde dans son salon, ce qu'elle ne montre jamais, ses tableaux, car elle peint aussi bien qu'elle dessine.
Ah oui, formidable.
Je vous conseille de voir ça un jour.
J'essaierai, oui, d'accord.
En tout cas, nous, on va parler d'un film que je conseille à celles et ceux qui nous écoutent et qui sort aujourd'hui, dans quelques instants, donc le 20 février 2019. À tout de suite sur Sud Radio avec Denis Arcand.
Sud Radio, les clés d'une vie, 13h, 14h, Jacques Pessy.
Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Denis Arcand, et une date importante aujourd'hui, 20 février 2019, sortie de votre nouveau film, La Chute de l'Empire Américain. Alors, c'est la fin de la trilogie, vous prévoyez ce film depuis longtemps ou c'est venu comme ça ?
Non, c'est venu comme ça. Le titre de travail de ce film-là, c'était « Triomphe de l'argent ».
Oui.
Comme quoi l'argent de nos jours est la dernière valeur absolue dans laquelle on se réfugie. Et finalement, à mesure que le montage avançait, je me suis mis à avoir peur de ce titre-là. Parce que les gens avaient de la difficulté à le retenir, ou alors j'avais peur de la réaction des gens qui disent « Moi, l'argent, je m'en fiche. Moi, l'argent, ça ne m'intéresse pas. Je ne veux pas entendre parler d'argent et tout ça. » Puis je me suis dit « Quand même, le film est un peu plus vaste que ça. Comment l'appeler, etc. » Puis là, je me suis dit « Tiens, relions ça au film du départ. » Puis appelons ça « La chute de l'Empire américain » puisqu'il y a eu le déclin et la chute de l'Empire romain.
Oui, exactement. Mais ça n'a pas d'autre rapport que ce clin d'œil au premier film.
Non, pas du tout. Et ça peut juste dire cette époque dans laquelle nous vivons.
Alors, comment est né ce projet ? Bon, l'histoire, c'est un personnage qui a un doctorat de philosophie, mais qui est aussi chauffeur-livreur.
Oui, ben c'est ça, parce qu'il le dit lui-même, les baby-boomers occupent tout l'espace universitaire. Et il n'a pas d'emploi, sauf qu'il pourrait avoir des emplois de professeur à temps partiel, de chargé de cours, des choses comme ça. Et livreur, c'est plus payant. Et donc, il préfère être livreur, finalement.
C'est un problème qui existe au Québec, parce qu'il existe en France.
Il existe au Québec, il existe partout. Les baby-boomers ont tout occupé le champ. Et donc, les jeunes ne savent pas qu'ils vivent de petits boulots, de choses comme ça. Donc, lui, il est livreur.
Il est livreur et puis il est témoin d'un hold-up.
Oui, c'est ça. C'est qu'il arrive au bon ou au mauvais moment, comme on veut. Et ça a été... Il y a eu une tuerie, les gens sont morts. Et il y a entre 10 et 12 millions de dollars dans deux gros sacs d'argent. Et c'est de toute évidence l'argent de la drogue, de la bande de l'Ouest. Parce que Montréal se divise en parties géographiques en ce qui concerne le crime organisé. Et donc, il a 12 millions de dollars. Et il est prof de philo, c'est-à-dire que c'est pas un crétin. Donc, il ne veut pas aller s'acheter une Ferrari demain matin, puis là, la police va le cueillir comme un imbécile. Il est assez intelligent pour savoir qu'il ne saura pas quoi faire avec cet argent, donc il faut qu'il trouve quelqu'un qui va le conseiller. Alors, où en trouver ? Il trouve quelqu'un qui sort de prison et il trouve, je ne raconte pas toute l'histoire.
Non, mais il y a une escort girl aussi qui est très importante, qui n'est pas une prostituée comme les autres, Denis Arcand.
Non, c'est ça, parce que là, maintenant, vu qu'il a 12 millions de dollars et qu'il il a rompu avec sa petite amie, il est forcément célibataire, il est chez lui, il est très timide, il ne sait pas comment rencontrer des femmes, etc. et tout. Et sur l'Internet, il répond à une invitation sur Internet et là arrive... cette créature de rêve qui, de toute façon, n'est pas de sa classe, n'est pas de ses moyens habituels, ni rien. Et là, par son innocence et par son espèce de naïveté, il va réussir à établir un contact avec elle qui va pouvoir se continuer après cette première visite qui est en fait le seul faux pas qu'il fait parce que les policiers, voyant sortir cette fille-là, disent « Elle est trop chère pour vous ». Expliquez-nous ça. Voilà. Et donc là, l'action s'enchaîne à ce moment-là.
Et c'est une fois de plus un film défendant les causes qui vous sont chères, c'est-à-dire le monde de l'argent, le monde du travail, Denis Arcand.
Oui, et aussi le monde de l'extrême pauvreté, parce que si on parle de l'argent, il faut parler aussi de ceux qui n'en ont pas du tout. Et donc, ça fait partie de notre univers.
Alors justement, en France, on parle des SDF, des migrants. Comment ça se passe au Québec ?
C'est la même chose.
Pareil.
C'est pareil.
Parce qu'on n'en parle pas beaucoup en France, on ne sait pas ce qui se passe là-bas.
Oui, c'est sûr. Les migrants, pour nous, ça existe, c'est un problème, mais ça n'est pas aussi grave qu'ici, parce que le Canada étant tellement loin, c'est compliqué de s'y rendre. Il faut traverser un océan. On ne peut pas juste marcher.
Oui.
Bon, ici, on traverse la Méditerranée, encore ça se traverse. L'Atlantique Nord, il ne faut pas y songer. On ne peut pas ramer l'Atlantique Nord. Donc, Donc, l'immigrant, c'est un peu... Ça existe, mais c'est moins direct, là, c'est moins immédiat. Mais les SDF, il y en a partout, il y en a plein. Et ce qui est encore plus grave, c'est ceux que j'ai choisis, c'est les Inuits, c'est-à-dire des gens qui viennent du Grand Nord, qui sont complètement en plus acculturés. Oui, donc, ils ont des problèmes de drogue, des problèmes d'alcool, c'est épouvantable.
Oui, mais justement, les Inuits que vous présentez, ils sont venus dans le film par hasard, derrière quand.
Oui, c'est ça, parce que je... J'étais pas encore conscient tout à fait. J'étais conscient que le personnage allait s'occuper des SDF et il allait donner du temps dans un organisme qui s'occupe des SDF. Voilà. Ça faisait partie du scénario. Mais il se trouve qu'un matin, à l'aube, on est parti avec une caméra parce qu'il fallait filmer le lever du soleil sur Montréal. Et j'ai vu des gens, je ne savais pas encore qu'ils étaient Inuits, qui étaient couchés, qui dormaient dans l'entrée d'un café. Donc je me suis dit, ça fait partie de notre film, on s'arrête. On avait la caméra avec nous, on les a filmés. Quand ils se sont réveillés, je me suis rendu compte que c'était des Inuits et je suis allé leur parler, je leur ai demandé « Est-ce que je peux faire votre portrait? Je voudrais vous engager comme rôle muet dans mon film. » Puis ils ont dit oui, puis on a parlé un peu ensemble. Et puis là, je me suis rendu compte que ça faisait partie de mon film, je ne savais pas où mettre ça dans le montage. Et on a travaillé, on a fait plusieurs essais ici et là, c'était pas évident. Jusqu'au moment où on s'est rendu compte qu'il fallait que ce soit les derniers plans du film.
Les Inuits, on ne les connaît pas beaucoup en France, qu'est-ce que c'est?
C'est ce qu'on appelait autrefois des Esquimaux, donc des gens du Grand Grand Nord. Et on a changé de nom parce que c'est la vague du politiquement correct. Les Esquimaux, c'était le mot dérogatoire qu'utilisaient les Indiens, les Amérindiens, pour parler de ceux du Nord. Et donc, ça avait un sens dérogatoire. Donc, maintenant, les Esquimaux ne veulent plus être appelés Esquimaux, ils veulent être appelés Inuits, qui est la façon à eux de se nommer.
Et comment se retrouvent-ils à Montréal, Denis Arcand?
Eh bien, parce qu'ils appartiennent au territoire québécois. Le Québec va jusque dans l'extrême nord. Et donc, pour toutes sortes de raisons, des fois, ils vont venir pour des soins médicaux. Ils vont venir à l'hôpital. Ils émigrent, on ne sait pas exactement comment. Mais finalement, ils aboutissent dans les rues.
Et alors, il y en a quand même qui ont plus de chance. Il n'y a plus de kayaks, il y a des barques à moteur. Les maisons de bois ont remplacé les igloos de neige ou de terre. Et le fusil remplace le harpon.
Ouais, c'est ça. Mais quand vous dites ça, vous décrivez en même temps l'acculturation. Un kayak, vous pouvez le fabriquer avec de la peau de phoque et vous n'avez besoin que de tuer un phoque. Et avec des os de baleine, vous pouvez faire la structure et vous n'avez besoin de rien d'autre chose. Vous êtes en autarcie. Si vous avez un moteur, Evinrude, ce moteur a besoin d'essence, il a besoin de pièces. Il faut les remplacer. Pour les remplacer, il faut que vous ayez des dollars. Si vous avez des dollars, il faut que vous chassiez quelque chose que les Blancs veulent, ou il faut que vous fassiez de l'artisanat, et vous devenez en contact obligatoire avec la civilisation blanche, et c'est exactement ça l'acculturation. Puisque là, vous êtes démunis, et vous devenez entièrement dépendant de cette autre civilisation, et c'est une tragédie.
Ce film, Denis Arcand, La chute de l'Empire américain, vous l'avez fait pour le plaisir?
Oui, parce que je suis rendu à un âge où je travaille que pour le plaisir. Et c'est merveilleux, c'est bien.
Vous n'avez pas l'obligation d'aller à Cannes de faire un film?
Non, j'ai plus d'obligation. Écoutez, il y a peu d'avantages à avoir mon âge, mais ça, c'en est un.
Donc vous n'êtes pas allé à Cannes cette année pour présenter le film?
Non, j'ai plus beaucoup de contacts avec Cannes. J'en avais avec Gilles Jacob, puis après, j'en ai eu moins, là, maintenant.
Parce que la Croisette est en train de changer, on est en train de changer tout sur la Croisette, on va refaire totalement les plages, les bâtiments aux normes, et ça sera très différent.
C'est ce qu'on m'a dit.
Alors, effectivement, le pouvoir de l'argent dans ce film, c'est important pour vous. Est-ce que finalement, ça peut évoluer dans le bon sens ou pas du tout, à votre sens?
Ça peut évoluer dans n'importe quel sens. L'argent en soi, c'est un moyen d'échange. Donc, ça n'est pas ni bien ni mauvais. L'extrême accumulation d'argent dans les mains de peu de personnes, c'est ça qui est la tragédie. Et donc, c'est de ça dont je parle, puis c'est de ça aussi parce que autrefois il y avait un certain nombre d'autres valeurs. C'est-à-dire que pour mes parents, par exemple, ce qui était important, c'est d'avoir une bonne vie pour mériter sa place au ciel. Ça, c'était fondamental. L'argent, oui, il en faut, mais bon, c'était pas tout. Il y avait aussi des gens qui s'intéressaient à autre chose, à l'honneur de l'armée, qui s'intéressait à la marine, qui s'intéressait... Maintenant, c'est plus juste le fric, et même dans mon propre métier, maintenant, tout ce qu'on veut savoir, en tout cas, très souvent, je ne parle pas de vous, mais c'est... Vous avez fait combien d'entrées?
Oui, je ne sais pas.
Le film a fait combien d'entrées? Oui. Hein? C'est ça, maintenant. Là, le critère, c'est les entrées. Personne n'a demandé à John Ford, quand il faisait un western, combien d'entrées il avait fait. C'était des westerns, parce qu'il y avait des westerns chaque semaine qui prenaient à l'affiche sans arrêt. Puis là-dedans, il y avait des chefs-d'œuvre absolus du cinéma, puis on ne se souciait pas des entrées. Bon, alors que maintenant, c'est devenu la norme. Et pour moi, c'est un peu une tragédie, comme l'audimat en télévision, comme tout ça.
Oui, non, on n'a pas besoin de ça. En revanche, je vais vous interroger sur cette musique, savoir si le compositeur vous dit quelque chose. C'est une symphonie de Michael Hind.
Oui.
Et ça vous dit forcément quelque chose, c'est le frère de Joseph Hind.
Oui, c'est ça, exactement. Oui, ben c'est ça, c'est comme... Moi, je suis un peu un fan de musique classique, j'écoute surtout de la musique classique. Et un jour, j'ai entendu ce mouvement lent de la 25e symphonie de Michael Haydn. Je me suis dit, mon Dieu, c'est absolument magnifique. Puis je voulais faire une adaptation de ça pour la mettre dans le film. Et je me suis aperçu qu'à son époque, c'était un mouvement qui était tellement célèbre que Mozart l'a repris. Et pendant très longtemps, on a cru que c'était Mozart qui avait composé ça, puisqu'il a repris, note pour note, sa 38e symphonie, ou je sais pas quoi. Les musiciens de musique classique connaissent ça par cœur. Quand j'ai dit ça, les gens disent « Ah oui, mais là, c'est ce que Mozart a copié. » Parce que Michael Haydn n'était pas très célèbre, mais Mozart le connaissait bien, parce que c'était le compositeur qui habitait Salzbourg. Donc Mozart le connaissait.
Et alors, vous avez écouté ce morceau qui vous a fait chaud au cœur et vous avez demandé au compositeur du film de s'inspirer de Hind pour la chute de l'Empire américain.
Oui, voilà, c'est
pourquoi
ça.
C'est comme c'est une envie, c'est toujours
comme ça,
dans vos
films. Ou comme ça, parce que j'aime ça, j'écoute toutes sortes de musique. Et pendant que je prends des notes en général en vue de la scénarisation d'un film, il y a aussi des notes qui concernent la musique, tout le temps. Donc, me souvenir de tel machin, tel morceau, tel truc, etc. Puis finalement, ça s'imbrique tout ça ensemble et ça fait partie de mon projet.
Oui, un projet avec toujours les mêmes compositeurs et les mêmes comédiens, car vous avez établi une véritable troupe qu'on connaît peu en France, puis qui sont des comédiens très célèbres au Québec.
Rémi Girard, Pierre Curzi, Yves Jacques, tous ces gens-là.
C'est important de travailler toujours avec les mêmes.
Écoutez, beaucoup de réalisateurs font ça, parce que c'est confortable, parce que c'est des gens qui, finalement... deviennent votre voix. Ils connaissent votre voix, votre ton, et vous n'avez pas besoin de leur parler, de leur expliquer, c'est tout naturel. Et c'est particulièrement utile dans le cas de film où, par exemple, dans ce cas-ci, j'avais deux débutants. Et donc, là, il faut que j'aie beaucoup d'attention, puis je porte beaucoup du soin à entourer mes deux débutants. Alors, si j'ai en même temps ma troupe de comédiens permanents, eux, je peux me reposer sur eux, je sais que tout va bien aller, et je peux consacrer plus de temps aux débutants.
Oui, et il y a eu un Français un jour, vous avez engagé, un Français qui nous manque et qui est cher à notre cœur, dans Le Crime d'Ovid Plouf, je crois que c'était Jean Carmet.
Ah oui, formidable, extraordinaire. C'était absolument merveilleux, c'est une rencontre extraordinaire. Et la première fois qu'on s'est vus tous les deux, il m'a dit, écoute mon cher, nous n'en sommes pas, ni toi ni moi, à notre premier mauvais film. Ce que je trouvais absolument extraordinaire. Il m'a raconté une autre anecdote. Jean Renoir, à un moment donné, on lui avait dit « Si vous prenez un autre verre de vin blanc, vous mourrez. Vous êtes mort. » Et donc, il ne fait plus boire du tout. Il faisait venir Carmet chez lui, à Hollywood, avec du muscadet ou du chablis. Puis il lui disait « Bois-le et dis-moi à quel point il est bon. » Alors, Carmet buvait, puis il décrivait le vin. Je trouve ça extraordinaire.
Et Carmet est quelqu'un qui peut, pendant un tournage, aller chez l'habitant, déguster un lapin. Il l'a fait.
Ah oui, oui.
Il vous a tout fait, je suis sûr.
Non, mais c'était une rencontre extraordinaire. Formidable. On s'entendait comme larrons en foire.
Et Les Ploufs, c'était une série, un livre, ensuite une série radiophonique. Et Jean Carmet a débuté aussi, dans ses très jeunes années, dans une série radiophonique qui est l'équivalent des Ploufs en France, qui était La Famille du Raton.
Ah oui.
Il était un des fils du raton.
Ah, ok, d'accord.
Donc, bon. Un point commun.
Oui, oui.
Alors, ce film, bon, il sort aujourd'hui, il y en aura d'autres, Denis Arcand.
Écoutez, je ne sais pas si Dieu me prête vie, on fait touchons du bois, j'ai fait ça toute ma vie, je vais probablement continuer. Mais bon, on va voir.
Oh, je ne suis pas inquiet pour vous. En tout cas, cette chute de l'Empire américain, je pense que ce ne sera pas du tout une chute dans les recettes, d'après les échos que j'en ai eus. Je vous souhaite tout le succès que vous continuez à mériter.
Eh bien, vous êtes bien aimable, merci.
Merci à vous de vous être raconté dans ces clés d'une vie. Puis bon retour au Québec et à bientôt.
Merci, c'était un plisir.
Dans quelques instants, on retrouve Brigitte Lahaye et nous, on se retrouve bien sûr demain à 13h pour d'autres clés d'une vie. Merci, bonne journée, à demain.